Vous écoutez RTL.
Il est 15h03 sur RTL. Tout de suite, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Bonjour Marie Mollet.
Bonjour Flavie.
Marie, je vous rends l'antenne à 16h pétante pour un prochain point sur l'actualité sur RTL.
À tout à l'heure.
Merci. Selfie, photo de soirée, de vacances, des enfants, de nos assiettes, de nos achats, de nos légumes, de notre salle de bain. Pourquoi expose-t-on notre vie sur les réseaux sociaux? Est-elle toujours privée? L'émission est en direct et elle commence tout de suite sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous accueillir, je vous le disais, en direct donc sur l'antenne d'RTL et de vous accompagner en cette fête de la Toussaint. Nous sommes ensemble, vous le savez, comme chaque jour jusqu'à 16h et je vous attends au 3210 et sur Facebook et sur Twitter pour une petite séance de réflexion. En toute honnêteté, cela va de soi. Car aujourd'hui, nous allons parler de la super nana ou du super mec que nous sommes. Irrésistible, souriant, cultivé, gourmand, raffiné, entouré, fêtard, sportif. Voilà par le menu les qualificatifs qui viennent à l'esprit lorsque l'on découvre notre profil Facebook ou encore Instagram. De nos jours, les réseaux sociaux sont donc une fenêtre sur notre vie que l'on ouvre aux autres, du petit déjeuner au coucher, de la cuisine à la salle de bain, de notre assiette à notre tiroir à chaussettes. Notre vie privée ne l'est plus tout à fait. Alors qu'est-ce qui nous pousse à nous raconter ainsi sur Facebook, Instagram, Snapchat ou autre? Est-ce que l'on partage ou est-ce que l'on exhibe? Que reste-t-il de ce que nous sommes? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Michael Stora, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Michael Stora. Bienvenue, vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de cet ouvrage Hyperconnexion aux éditions Larousse. Est-ce que l'on exhibe ou est-ce que l'on partage sur les réseaux sociaux?
On va dire que premier temps, on exhibe, et deuxième temps, attendu par celui qui poste, c'est d'être partagé.
C'est l'objectif.
Bien sûr. On voit bien à quel point chacun de nous cherche une forme d'audimat intime. Ouais. Et les réseaux sociaux en sont des révélateurs.
À vos côtés, Hugo Drujon. Bonjour Hugo Drujon.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Hugo. Merci. Vous êtes responsable des contenus digitaux chez ITV Studio France.
C'est
donc
ça.
Le contenu digital, vous, alors c'est dans le cadre des productions d'ITV.
Tout à fait.
Néanmoins, évidemment, vous avez été aussi community manager, donc vous connaissez ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on expose notre vie dans ces recoins les plus intimes? Et on reviendra, on se demandera si c'est vraiment de l'intimité ou pas. Dans ces recoins, en tout cas les plus intimes sur le papier, qu'est-ce qui nous pousse à nous exhiber de la sorte?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie quête de notoriété des gens. Les réseaux sociaux sont là pour mettre en avant des personnalités définies ou existantes. Et aujourd'hui, face à cette volonté de notoriété, à cette grande génération de spectateurs qui est là, on a certains qui émergent et qui... à travers le partage de leur vie vraie, entre guillemets, arrivent à devenir des stars des réseaux. Et la majeure partie sont là juste pour se dire « j'aimerais avoir cette vie ».
Voilà, vous pensez qu'on court après une notoriété sur les réseaux sociaux?
Bien sûr, aujourd'hui, à l'école, quand on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, beaucoup de gens disent qu'ils veulent être influenceurs. Influenceur, c'est avoir une communauté importante sur les réseaux sociaux, c'est devenir parfois une vitrine pour les marques, c'est des revenus, c'est plein de choses. Et après, c'est une porte ouverte sur un avenir différent. Donc, bien sûr, les gens sont en quête de notoriété. Ouais.
Alors, Michael Stora, Hugo Drujon est un petit jeune à côté de nous, donc il nous parle. Je pense d'une partie aussi des utilisateurs des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné aussi on a des gens qui n'ont pas l'ambition en tout cas de se distinguer ou d'atteindre une certaine notoriété, je dirais presque publique, mais presque une notoriété dans une forme de d'intimité. Alors je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. Qu'est-ce qui nous pousse à parfois balancer la photo de notre assiette, quoi, comme si effectivement c'est quelque chose qui allait intéresser notre prochain?
Alors c'est vrai que ça, parfois c'est étrange en effet de voir autant de personnes qui n'arrêtent pas de poster des photos de choses totalement futiles. Pour lui, non. Est-ce que ça vient révéler le fait que de plus en plus de nos contemporains ont du mal aussi presque à être seuls? La question c'est pas parce que je suis seul derrière mon mobile que je me sens seul. Et moi j'ai tendance à penser qu'au-delà du désir de notoriété, il y a vraiment quasiment un enjeu existentiel. C'est-à-dire c'est un peu cette idée, c'est comme si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que dernièrement une amie a eu un bébé et le premier jour elle a créé une page WhatsApp où chaque jour elle postait jusqu'à 10 photos. Donc on peut se demander à quel point cette génération qui a tellement été photographiée, comme si elle avait besoin presque d'exister. Alors là où c'est assez étrange, c'est qu'on le remarque chez des gens qui ont plus de 40 ans, 50 ans, voire plus, et qui en effet n'arrêtent pas de poster. Est-ce que ça vient finalement trahir une forme de fragilité, presque narcissique, disons les choses, quant à l'estime de soi, ou une sorte de self-branding, hein, ça rejoint un peu cette idée, c'est-à-dire on devient chacun une marque et on a besoin d'exister à tout prix dans le regard de l'autre.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement ces réseaux sociaux viennent combler, ou en tout cas l'exposition de notre vie sur les réseaux sociaux vient combler une solitude profonde, presque abyssale aujourd'hui, dans un monde où on est tous connectés les uns aux autres et néanmoins on est tous seuls et on est en manque de notre prochain.
Totalement, c'est vrai que alors on peut y voir aussi d'autres choses, c'est-à-dire ce désir de remplir une sorte de jauge d'estime de soi. On voit bien le fait que quand je poste, je veux avant tout être partagé, liké, tweeté, retweeté et compagnie, avoir de plus en plus d'abonnés. Donc on voit bien ce désir. Mais est-ce que c'est que de la notoriété ? C'est vrai qu'on va voir des influenceurs qui existent, mais il y en a quand même peu parmi la grande majorité des gens qui postent.
Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces influenceurs, Hugo Drujon ?
Ils ont une vie, en tout cas, ils montrent une vie que la majeure partie des gens aimeraient avoir. Voyager, aller dans des beaux endroits, être invité à des soirées,
vivre de ça aussi.
Vivre de ça, bien sûr.
Est-ce que c'est un vrai job ?
Ah, c'est un job à temps plein. Faut se créer tout ça. C'est des rendez-vous sur les réseaux, des heures où faut poster certaines choses. Il y a des contrats avec des marques, faut poser sur les réseaux sociaux, des publications, etc., etc. Derrière, il y a toute cette phase de chiffres et d'analytics qui prouve qu'une communauté est engagée ou non. Enfin, après, on rentre dans des termes techniques, mais oui, bien sûr, je rejoins en plus ce que disait
Michael Stora.
Exactement, c'est qu'on a cette quête de reconnaissance, vraiment, en fait, plus que de notoriété à la base, où là, c'est une vraie quête de reconnaissance où les gens se disent, et je montre ma vie parce que peut-être elle est meilleure que certains autres et des gens vont me suivre pour ça. Et ça va me faire du bien à mon égo, quoi.
Voilà, se flatter l'égo. Dans un instant, on va accueillir Ophélie sur cette antenne. Ophélie, elle a 15 ans, elle est lycéenne. Elle va nous raconter un petit peu cette double vie sur les réseaux. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Voilà, pourquoi expose-t-on notre vie ? Dans un instant, nous allons donner la parole à Ophélie. Mais auparavant, un message de Valérie. Je suis sur Facebook et Instagram, nous écrit-elle. Au début, j'ai commencé Facebook juste pour rester facilement en lien avec la famille et les amis qui étaient loin. Puis je me suis rendu compte que les réseaux sociaux bien utilisés pouvaient être pratiques et intéressants. J'adore les voyages, la lecture, la psychologie, la cuisine. J'ai même commencé une formation par correspondance de community manager. Ingrid qui nous explique qu'elle publie beaucoup moins qu'avant. À quoi bon raconter sa vie tous les jours quand au final il n'y a que quelques personnes avec qui vous êtes vraiment en contact. En revanche, je suis archi contre tous ces parents qui publient des photos de leurs enfants dans toutes les situations possibles. Les réseaux sociaux ne sont pas si protégés que cela et je trouve que c'est dangereux. On va accueillir, si vous le voulez bien, Ophélie. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Comment vas-tu ? On peut se tutoyer, Ophélie ?
Oui, pas de souci.
On a le même âge, toi et moi. Tu as 15 ans, tu es lycéenne.
Oui.
Et donc, tu profites de tes vacances, hein, parce que c'est vrai que là, c'est la petite pause pour vous. Et c'est bien d'en profiter. Est-ce que tu profites justement de tes vacances pour être super active sur les réseaux sociaux ?
Alors, oui, c'est vrai que j'en profite pour être active sur les réseaux sociaux. Mais ça ne m'empêche pas néanmoins d'être en contact avec mes parents quand même.
D'accord, ok, c'est sympa de leur accorder un petit peu de temps en temps,
mais
pas simplement de leur dire va sur mon Insta pour voir comment je vais. Ophélie, qu'est-ce que ça représente pour toi les réseaux sociaux ?
Bah beaucoup, parce que j'ai entendu qu'il y avait un collègue qui était community manager, et je veux faire ça plus tard, donc c'est pour ça que je me suis un peu lancée sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et vraiment, les réseaux sociaux, ça m'aide un peu pour tout. Je peux partager des petites blagues que je fais. Moi, ça me fait rire de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment bien pour les petits que je fais.
Tu partages ta vie aussi ? Tu montres ton quotidien sur les réseaux ?
Alors, ma vie, oui, un peu. C'est plus des trucs drôles que je ne mets pas. Genre, aujourd'hui, j'ai mangé des frites. Quoi, parce que moi, je trouve ça un peu inutile.
D'accord.
Genre, vous avez parlé des gens qui postaient la nourriture. Moi, je trouve ça vraiment inutile, par contre. Ça.
D'accord. Mais après, qu'est-ce que tu partages, toi, par exemple ? Est-ce que tu prends des photos de toi partout dans ta vie ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être dans ton lit le matin ? Est-ce que ça peut être dans ta salle de bain ? Est-ce que ça peut être dans la rue avec les potes ?
Non, je ne suis pas du genre à mettre des selfies de moi tout le temps.
D'accord.
Plus du genre... franchement, me mettre en valeur, moi, ça m'a... Enfin, limite, je préfère mettre des photos de moi qui me dévalorisent plutôt que me mettre en valeur, quoi.
D'accord, ok, mais c'est une forme de communication aussi.
Oui, oui, oui.
Toi, tu es partie pour... Tu surfes donc sur l'humour, sur l'autodérision, tu es un personnage plutôt positif et dans l'humour.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est ce que tu es dans la vraie vie?
Oui, oui. Okay. Souvent, les gens me demandent est-ce que je suis comme ça dans la vraie vie, vraiment. Oui, voilà.
Est-ce que c'est valorisant pour toi d'être suivie par tout ce monde?
Oui, franchement, oui. Et moi, j'aime bien parce que quand j'étais... il y a un ou deux ans, j'étais plus dans une période un peu compliquée.
Ouais.
Et voilà, moi, j'aimais bien qu'on me fasse rire, par exemple, de youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé et tout. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Je me suis dit, bah, autant rendre l'appareil. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans? Tu traversais des moments difficiles. Il y avait du monde autour de toi pour t'aider?
Comment?
Il y avait du monde autour de toi pour t'aider?
Du monde présent, oui, mais après, c'est plus des gens sur les réseaux sociaux. En fait, je visais plus sur les réseaux sociaux plutôt que parler avec mes parents et tout. Chose que j'aurais dû. C'est pas ça.
Pourquoi?
En fait, j'évitais de dire sur les réseaux sociaux quand j'allais pas bien, mais les gens le sentaient, donc les gens sont venus vers moi. Après, il y a 11 ou 2 ans, c'était pas comme maintenant. Là, maintenant, je suis un peu plus suivie, mais je sais pas.
Mais c'est-à-dire que tu es un petit peu plus suivie, c'est-à-dire que tu rencontres toujours des difficultés dans ta vie aussi, là encore, au fini?
D'accord. Non, là, vraiment, là, je suis soutenue par les gens, par mes parents, par mes amis.
D'accord.
Là, ça va beaucoup mieux.
Bon, qu'est-ce que ça t'apporte de poster?
De poster sur les réseaux sociaux?
Ouais, ça te fait quoi quand tout à coup tu sais que tu vas balancer une image, que tu vas envoyer une idée, que
ça me fait rire, je me dis j'espère que ça va faire rire les gens. Le principal quand je poste une vidéo sur Snapchat ou un tweet sur Twitter, la principale idée c'est les gens derrière l'écran ils disent c'est drôle. Mm-hmm. Voilà, moi je rigole, je trouve ça drôle. Mm-hmm. Du coup, c'est plus le rire que je cherche à faire prendre, réfléchir les gens. Non, je ne prends pas la tête.
Tu guettes un petit peu tes audiences comme ça sur les réseaux quand tu postes?
Oui, régulièrement, ouais.
Combien de fois par jour est-ce que tu vas sur les réseaux pour vérifier où tu en es?
Pour les audiences, franchement, ça, c'est vraiment une fois par semaine. Parce que d'accord. Twitter, c'est calculé la semaine.
Ah, d'accord.
Donc,
excuse-moi, j'étais pas au courant.
Je regarde plus à la journée.
D'accord.
Une fois par jour.
Ok. Tu restes avec nous, Ophélie?
Pas de soucis.
Tu nous accordes un petit peu de temps. J'ai l'impression que tu as des potes autour de toi.
Comment?
Tu as des amis autour de toi, là?
J'ai mon copain.
T'as ton copain. Il est sur les réseaux aussi, lui?
Oui.
Ah, très bien. Tu vas nous le passer dans un instant. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je prends des cours de réseaux sociaux aujourd'hui grâce à nos invités que sont Mickaël Stora qui est psychologue, psychanalyste et qui vous propose cet ouvrage Hyperconnexion aux éditions Larousse et grâce à Hugo Drujon qui est donc responsable des contenus digitaux chez ITV Studio France, donc spécialiste des réseaux sociaux. Vous avez également été community manager.
C'est
alors
ça.
Voilà, c'est toute une gestion les réseaux sociaux, c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer il y a un instant hors antenne. Ophélie, tu es toujours en ligne avec nous?
Oui.
Bon, j'ai appris une très triste nouvelle, c'est que ton fiancé ne veut pas intervenir sur l'antenne d'RTL, donc tu l'embrasseras pour nous. Est-ce qu'on peut juste connaître son prénom?
Romain.
Eh ben, on va faire un hashtag Romain veut pas parler sur RTL. Mais je suis en train d'apprendre, t'inquiète pas Ophélie, donc je ne sais même pas comment je m'en sers. En tout cas, tu le salueras pour nous. Il y a un instant, tu nous expliquais, toi, que ton choix pour exister sur les réseaux sociaux, c'est l'autodérision, c'est l'humour. T'essayes de faire passer des idées qui vont rendre les gens heureux. C'est une véritable gestion, quand même, on l'aura bien compris. Et puis en plus, tu veux être community manager. Alors, on va donner la parole à Hugo Drujon, Ophélie, qui va pouvoir échanger avec toi. Hugo.
Moi, j'ai une petite question. Déjà, de par ton âge, il y a une consommation sur les réseaux qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître, nous.
Voilà, il faut préciser qu'elle a 15 ans.
C'est il y a même des choses que je connais même pas, que je suis en train de découvrir dans mon métier aussi. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu es plus dans... Donc, j'ai compris que tu étais sur Instagram et sur Twitter. Est-ce que tu es plus dans la publication photo, ce qu'on appelle en dur, donc sur ta page, ou est-ce que tu fais beaucoup plus de story?
Sur Instagram?
Ouais.
Non, sur Instagram, c'est plus perso. Je poste plus des photos de moi, de mes amis. Et non, ça ne m'empêche pas de faire des stories aussi sur Insta. Mais plus sur Snapchat pour... Alors, une story un peu drôle.
Quelle est la différence entre une story et une photo sur Instagram? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité?
La photo, on l'a choisie, on la travaille, elle est modifiée avec moult filtres via l'appli Instagram. Et la story, elle, est là. C'est un contenu éphémère qui est là pour 24 heures.
Elle raconte vraiment le moment.
Voilà, qui est un contenu de l'instantanéité en fait, ou qui peut, on peut nous-mêmes choisir de mettre une vidéo en story, mais on peut pas mettre une vidéo qui a plus de 24 heures dans notre téléphone.
D'accord. Donc ce qui explique aussi que à travers les stories, on peut vraiment raconter l'instant T. Là, on pourrait faire une story, c'est-à-dire que on saurait que Hugo est dans les studios d'RTL.
C'est ça.
Vous pourriez nous filmer en fait sur c'est votre ça. Story, et ça raconterait pour le coup vraiment votre quotidien, parce que pour le coup, ça raconte
quotidien.
Le quotidien. Ouais. Donc c'est une façon d'exposer sa vie aussi.
C'est une façon d'exposer sa vie
et
sans filtre. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est une vraie façon d'exposer sa vie, et surtout c'est une façon de connaître son audience, puisque ça nous permet de savoir à l'instant T qui a regardé nos contenus, qui les consomme. Et derrière, dans une démarche entre guillemets un peu plus professionnelle, mais les réseaux sociaux sont devenus une démarche professionnelle, même dans la vie de tous les jours de n'importe qui, ça nous permet de connaître quels sont les contenus qui sont les mieux pour nous à poster sur nos réseaux, qui vont faire plus de likes, etc., etc.
Donc une vraie gestion.
Une vraie gestion.
Ouais. Ophélie, je te présente Michael Stora. Il est psychanalyste et très gentil. Alors Michael, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage d'Ophélie?
C'est quand même quelque chose que j'ai remarqué, puisque j'ai été moi-même directeur de la cellule psychologique de Skyrock.com pendant 6 ans. Et donc, j'ai eu affaire à beaucoup d'ados. Et justement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les adolescents utilisent les réseaux sociaux comme un espace vraiment de construction identitaire, parfois de manière très créative. Alors là, elle nous parle de sa part humoristique, et on voit bien que l'humour, le second degré, qui est hyper présent sur la toile, d'un point de vue psychologique, pour le coup, est comme une sorte de pied de nez à cette culture de l'idéal aussi et de la performance, parce que quand même les jeunes sont confrontés à cette idée qu'il faut toujours aller bien. Facebook, malheureusement, je trouve, est devenu un espace, d'ailleurs, que les adolescents ont quasiment tous quitté, parce que leurs parents y sont,
mais
qu'ils l'utilisent comme un outil de surveillance.
Mais ils ont bien raison, d'ailleurs.
J'ai quand même d'ailleurs une petite anecdote, puisque une amie était très déprimée parce que sa fille l'a résiliée comme amie. Et alors je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que
normal.
Je ne pouvais pas m'empêcher de lui corriger ses fautes d'orthographe en commentaire.
Mais c'est normal. Donc,
il faut corriger les fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux, c'est très important.
Il faut les corriger, mais bon, on va dire que cette mère était très déçue. C'est vrai qu'il y a quelque chose où, en effet, cette part humoristique, mais aussi la part sombre, pourquoi pas la part avec la curiosité sexuelle, se mettait en place de manière assez clivée, l'adolescent comme un être à multifacettes. Et au fond, cette image de soi se construit dans la cour de récré, dans la classe, mais en effet sur les réseaux sociaux aussi. Tout en sachant que la plupart des études montrent que les ados se connaissent dans la réalité et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Après, ils ont beaucoup d'amis qui ne connaissent pas forcément. Ils sont parfois en quête d'audience, mais ils sont plus qu'en quête simplement d'audience. Ils sont aussi en quête, d'être reconnus comme un être à part entière.
D'accord. Est-ce que ça te parle, ça, Ophélie, justement, ce que nous dit Michael Stora?
Oui, un peu.
Est-ce que... Bon, tu me dis si t'es passé à autre chose, hein. Il n'y a pas de souci, Ophélie. Non, mais est-ce que tu as des amis que tu retrouves sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous vous reconnaissez, ou est-ce que finalement vous montrez une part de vous-même que les autres méconnaissent un petit peu sur les réseaux?
Oui, plus ou moins.
D'accord, ok. Écoute, en tout cas, Ophélie, tu salueras Robin.
Hein?
Et puis je te remercie d'être intervenu sur cette antenne, et on te souhaite plein de bonnes choses, et donc
merci.
Effectivement d'être community manager quand tu
merci
seras
beaucoup.
Grande. Salut Ophélie, à bientôt.
Merci, bonne
sur
journée.
RTL, salut.
RTL aime la musique.
Des standards.
Money, money,
mais aussi des nouveautés.
We are from the north. We came from the south. We are the nation.
Et des découvertes.
Quand les souvenirs s'en mêlent.
On aime la musique sur RTL.
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 Première radio de France.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Émilie nous écrit « Je ne publie jamais, ma vie privée m'appartient ». On s'interroge aujourd'hui, pourquoi expose-t-on notre vie sur les réseaux sociaux? Marc-Antoine qui nous écrit « Partager ses peines et ses joies sont aussi un bon moyen de soulager ses démons. Je trouve parfois que ça a un effet vraiment thérapeutique ». Et puis on en a d'autres, hein, comme Geoffrey qui nous dit « Souvent ça se résume au narcissisme. En général, c'est pour se vanter de son bonheur qu'on publie quelque chose, ne serait-ce qu'inconsciemment. On compare constamment sa vie à celle des autres, et les outils modernes permettent de le faire à grand grande échelle et en toute simplicité. Faut l'avouer, se l'avouer et vivre avec. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur RTL jusqu'à 16h en compagnie de nos invités Hugo Drujon et Mickaël Stora. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les super réfractaires hein, qui nous expliquent que ma vie privée m'appartient, Mickaël Stora, et d'autres qui nous expliquent que finalement, ils postent une vie qui n'est peut-être pas complètement la leur non plus. Est-ce qu'on joue pas un rôle sur les réseaux sociaux ?
Alors c'est vrai qu'avec l'avènement de Facebook, il y a eu une rupture énorme sur Internet. Internet était vraiment un espace, une forme de bal masqué. On pouvait porter des masques et chacun des masques se mettait en scène. Facebook, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, à l'image de la télé-réalité. C'est l'internet-réalité. Mais on se rend compte, comme la télé-réalité, que tout ça est du fake. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de mise en scène de soi. Il y a des archétypes. Et d'ailleurs, des études américaines qui ont montré que si je vais un peu mal et que je vais trop longtemps sur Facebook, je suis totalement déprimé. Parce qu'en effet, les gens montrent une image terriblement idéalisée. Et c'est pour ça que Mark Zuckerberg, dans ce désir de transparence à tout prix, de tout dire, de tout montrer, mais en même temps, soyons honnêtes, on voit bien que les gens racontent finalement ce qu'ils aimeraient. À nouveau, cette question de l'image qui est quelque chose de très idéalisé. Donc c'est vrai qu'on est parfois confronté à quelque chose, disons les choses, d'un peu pauvre. En tout cas, je me permets, alors il y a des gens qui sont très bons, mais la plupart du temps, on n'est que des relais de ce qu'il y a ailleurs. Et on sait quand même que la plupart des vidéos qui sont énormément regardées, c'est étrange, ce sont les petits chatons, les petits chiens. Donc on se pose la question à quel point on a besoin comme ça d'images qui viennent nous caresser, mais qui finalement n'ont pas vraiment de vocation créative. Toute la question, c'est que face à cette fragilité narcissique, l'idéal, c'est la créativité. Et là, il y a peu de réseaux sociaux qui nous laissent la possibilité de l'être.
Voilà, la créativité qu'essayait d'ailleurs de développer il y a un instant Ophélie, du haut de ses 15 ans. On reviendra sur les âges, parce qu'on se rend compte aussi qu'il est des seniors qui s'expriment aussi sur les réseaux sociaux. Vous parliez de la pauvreté, parfois des contenus. On a Mathieu, alors Mathieu, vous n'en prendrez pas ombrage, mais qui nous écrit sur Twitter, le maximum d'audience, c'est quand je poste une photo de mon chien, Stuart. Alors c'est vrai que Stuart, il est super mignon, mais en même temps, Stuart, il ne va pas non plus changer notre vie, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même ça, ce questionnement parfois de l'exposition, d'une intimité jusqu'au contenu des assiettes. Hugo Drujon, qu'est-ce que ça veut dire ça à un moment donné ?
Ça veut dire qu'on a besoin de montrer ce qu'on fait, qu'on a besoin de montrer ce qu'on mange, qu'on va aller dans des bons endroits, avec des belles personnes. Et voilà, il y a cette dimension de vrai partage. Il y a montrer sa vie, il y a aussi, en plus, montrer la vie des autres. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, à l'image de Stuart, qui ont créé des comptes sociaux pour leurs animaux et qui exploitent, qui monétisent vraiment la vie de leurs animaux, qui monétisent aussi parfois beaucoup moins, mais la vie de leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui créent des influenceurs
c'est flippant.
4 à 5 ans, qui fait très peur. Donc il y a ce besoin de montrer tout le temps ce qu'on fait, ce qu'on est, enfin ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on a envie de montrer, puisque tout ça est vraiment travaillé, et on choisit quelle personne on est vraiment sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça aussi. On se met un masque qu'on crée, qu'on façonne et qu'on entretient derrière.
Alors voilà, il y a cette histoire du jeu de rôle, Mickaël Stora, mais quand on va jusqu'à... Parfois, on la paye cher, je trouve, cette popularité sur les réseaux sociaux. Quand on va jusqu'à faire rentrer des clichés dans notre salle de bain, dans notre lit le matin quand on ne veut pas se réveiller, dans notre lit le soir quand on s'est couché et qu'on regarde une bonne série. Et encore, à la limite, la série, on se dit qu'on partage quelque chose. Mais parfois, on est vraiment dans une intimité qui est dérangeante, qui met mal à l'aise.
C'est vrai, il y a une sorte de drôle de jeu où nous sommes tous devenus des exhibitionnistes et il faut bien des voyeurs, donc il y a cette sorte d'aller-retour.
Oui, paye cher, je trouve.
À quel point on le paye cher pour vous ?
L'affection, parce que j'ai le sentiment quand on commence à faire des photos dans sa salle de bain ou dans le tiroir à chaussettes, c'est qu'on est en train de quémander quelque part.
Oui, mais c'est ce que je disais à un moment, je pense que ça vient trahir une profonde fragilité, la capacité à être finalement seul. C'est à nouveau cette problématique qu'on va retrouver chez énormément d'individus. J'ai vu dernièrement une personne qui venait sur Paris qui a fait au moins 20 photos de ce qu'elle visitait, mais elle était seule, elle devait le partager. Au fond, c'est un peu étrange de vouloir montrer qu'on visite quelque chose. Donc c'est vrai que cette question, à nouveau, entre un idéal qui vient véritablement combler chez certaines personnes une incapacité à pouvoir simplement faire appel à leur mémoire sensorielle. Pourquoi vouloir tout photographier ? Parfois, nos cinq sens nous rappellent qu'on peut entendre et ressentir les choses. Mais c'est vrai que l'image reste quand même du côté de l'idéal, vous savez, dans quelque chose qui finalement est devenu érigé comme une valeur énorme. Et on voit bien que cette idée de photographier des plats, des gens qui sont beaux autour de nous, cette culture du beau est devenue, j'ai presque envie de dire de manière provocante, une forme de fascisme. Et on n'a plus le droit à la laideur, on n'a plus le droit au négatif.
Mmh. Il y a même des effets sur les réseaux sociaux quand on prend une photo qui s'appelle des effets beauté.
Ah oui, alors ça, on a essayé une fois, mais une seule fois, hein, je vous assure.
Donc c'est quand même la preuve que...
Mais tu te souviens ? Non, mais on a essayé avec les filles une fois, puisqu'on avait une invitée qui a voulu prendre un selfie, et tout à coup, on s'est retrouvés avec du rouge à lèvres, avec du fard à joues, avec les yeux hyper travaillés, on était des bombes. Et je me demande si on l'a pas posté celle-là. Tiens, on va essayer de la retrouver, mais c'est vrai que c'était super drôle. Non, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, l'artifice, il nous est servi sur un plateau. Hein. Là, c'est même pas de la créativité, quoi.
Ah non, c'est plus de... Alors, il y a vraiment de vrais créatifs, qui sont très peu, mais qui sont de vrais créatifs des réseaux sociaux. Mais après, oui, sur les plateformes, typiquement sur Instagram, il y a des outils de retouche photo maintenant qui avant étaient professionnels, qui permettent à tout à chacun de devenir quelqu'un de très beau, bien retouché, avec des beaux effets. Donc oui, il y a toute cette démarche de...
On va se faire quelques effets, puis on va les poster là sur le compte Instagram de notre émission. À tout de suite sur RTL, n'hésitez pas, 3210 ou les fameux réseaux sociaux pour nous joindre. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Christelle poste sur les réseaux sociaux, mais avec parcimonie, nous écrit-elle. Rares sont les photos vues de tout le monde où l'on voit nos visages. C'est une façon à nous de nous protéger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Michael Stora ? C'est-à-dire qu'on on est toujours dans le circuit, dans le réseau, mais à nos conditions, quelque part. Est-ce que ça n'est pas signe d'une prise en main, d'une gestion, finalement, de cette problématique que peut représenter le réseau social?
On voit bien à quel point les gens se retrouvent à être comme une marque, hein, c'est-à-dire au fond à devoir gérer leur propre image, pouvoir finalement faire qu'en effet ils vont pouvoir avoir une audience nécessaire. Après, c'est vrai que je remarquais dernièrement quand des amis mettaient des nouvelles photos de profil, hein, par exemple de Facebook, on voit les réactions, c'est très étrange, c'est-à-dire qu'on... C'est comme si on parlait à un bébé, quoi.
Et vous imaginez si on se voyait dans la vie beau, belle, waouh.
Surtout que maintenant, on n'a plus que le like. Il y a aussi plusieurs réactions possibles sur les photos. Il y a le j'aime, il y a le cœur, il y a le ahaha. Donc on peut déjà donner son avis sur le physique de quelqu'un, ne serait-ce que sur une photo.
Oui, mais on s'écrit des choses sur les réseaux sociaux qu'on ne serait pas capable de se dire. Il est tellement plus facile d'émettre une critique que de faire un compliment. Et sur les réseaux sociaux, il y a ce truc où tout à coup on est du bel, on envoie des cœurs, on est dans quelque chose d'éminemment sympathique, hein, mais qu'on ne ferait pas forcément dans la vraie vie.
Il y a une sorte de sentiment d'élation fou, et d'ailleurs on a pu le voir, les gens sont totalement désinhibés avec beaucoup d'amour.
Oui.
On a l'impression qu'ils ont presque tous pris des extasies, c'est très étrange. Et d'ailleurs...
Enfin, en même temps.
Tout de suite.
Non, mais je me permets de dire ça parce qu'il y a eu une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, les apéros géants Facebook. Les gens ont voulu montrer que finalement, on n'est pas que virtuel, on va se rencontrer en réel. Ce qui s'est passé, c'est que pour que les gens retrouvent ce sorte de bien-être délirant entre eux sur la toile, ils ont bu énormément. Ça a été même, il y a eu des accidents. Et oui, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est à peu près le même effet. Il y a une sorte, je suis à l'abri du regard de l'autre, mais aussi de certaines choses qui d'habitude fait que dans la vraie vie, je ne dois pas dire ce que je pense, etc. Donc on voit que cette forme de désinhibition, c'est pour le meilleur. C'est génial, mais pour le pire, on a parfois l'impression d'être ce qu'on appellerait une party à l'américaine. C'est so amazing, Facebook. Et finalement, parfois, c'est aussi profondément, en tout cas, c'est ce que je trouve, un peu artificiel. Parce qu'à force d'aller excessivement bien... Est-ce qu'on en est vraiment des humains ?
Oui, évidemment. Pas du tout. C'est bien la réponse. Et c'est bien la problématique. C'est la raison pour laquelle on peut y aller et parfois aussi se perdre sur les réseaux sociaux. Hugo Drujon, tout à l'heure, on a entendu le témoignage donc, d'Ophélie. Elle a 15 ans. Il y a après notre génération à nous. Là, je parle plus de Michael Stora et moi. Hein, 30, 35 ans.
Qui est la mienne aussi.
C'est dingue. Non, mais, et vous nous disiez il y a un instant que en fait, les seniors, ce que l'on appelle les seniors, se rendent de plus en plus sur les réseaux sociaux et ils vivent aussi.
Oui, il y a une vraie présence maintenant des seniors sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois majoritairement sur Facebook, de plus en plus sur Instagram. Moi, je le vois par mon histoire perso. J'ai des potes dont on voit leur mère commenter nos publications, qui sont des gens qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Donc, ils nous ajoutent en amis, on trouve ça normal. On n'a plus grand-chose à cacher, je veux dire, sur les réseaux sociaux à notre âge. Et elle vient commenter toutes les photos, les statuts, les publications, etc. Elle est très présente. Il y a un...
Mais dans ce cas-là, ils sont présents pour aller sur les réseaux des autres, mais pas forcément pour alimenter leur propre...
Ah si, ils alimentent leur réseau aussi beaucoup. Il y a ce désir aussi, peut-être... Alors là, je parle sous couvert de mon collègue à côté. Il y a peut-être cette dimension de vraiment... s'adapter déjà aussi à cette mécanique de réseaux sociaux, donc d'en faire parfois trop et de partager beaucoup trop de choses, des enfants, des choses, des personnes
avec leur code à eux.
Voilà,
quelque
exactement.
Part. Michael Stora, est-ce qu'il y a de la naïveté aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux du côté des seniors? Est-ce qu'ils finalement ils y mettent trop de choses parce qu'ils n'ont pas, ils ne mesurent pas le danger de...
C'est marrant parce qu'au fond c'est ce qu'on disait il y a 10 ans avec les ados. On leur disait faites attention, le droit à l'oubli, etc. Et on se rend compte que les seniors se retrouvent un peu comme des ados, c'est-à-dire ils ont besoin, ils postent un maximum sans prendre conscience de ce que ça implique. Mais derrière aussi, il y a cette dimension d'une société où le jeunisme est très présent. Et donc, on voit que quand on est senior, on a un besoin de continuer quand même à exister. Et d'ailleurs, j'entendais dernièrement le fait que même les pubs pour les seniors, on prend des gens de 40 ans qu'on vieillit. Alors qu'un senior, c'est quand même plus de 50, parfois plus de 60. Mmh. Donc, on voit qu'il y a quand même à nouveau cette forme de jeunisme. On est dans une société très adolescente. Les réseaux sociaux en sont une caisse de résonance. Et on voit que certaines personnes recherchent continue à tout prix à vouloir être jeunes éternellement. Et les réseaux sociaux le permettent d'une certaine manière.
Et cette idée quand même aussi du partage, car en vous écoutant, je me dis que ce qui est génial dans le transgénérationnel, c'est que bon, les plus anciens ont des choses à apprendre aux plus jeunes, mais les plus jeunes aussi peuvent faire découvrir leur univers aux plus anciens. Donc quelque part, le fait qu'on s'y retrouve tous, ça c'est un peu le peace and love entre les générations.
Alors c'est vrai qu'on observe que ce qu'on appelle les millennials, leurs grands-parents, c'est les baby-boomers. Ils sont très très proches les uns des autres. C'est des générations un peu de flingueurs, j'exagère, mais un peu, c'est des gens qui ont un rapport assez gourmand à la vie. Et c'est vrai que les parents, par contre, continuent à être plutôt dans l'inquiétude. Donc c'est vrai que se rapprocher entre grands-parents et petits-enfants, même si on a 30 ans, est très banal et très intéressant sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout en sachant qu'on sait que le syndrome Skype, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir les grands-parents, mais on va skyper avec eux, montre aussi qu'il y a de l'évitement. Donc c'est assez compliqué. Derrière, il y a des histoires familiales, mais c'est assez amusant.
Merci. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur RTL. Et Hugo, vous pourrez poursuivre votre phrase que vous venez de commencer et que je viens de couper. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Dans un instant, nous allons donner la parole à Geoffrey. Il a 27 ans et il trouve que quand on est sur les réseaux sociaux, on est quand même un brin narcissique. Et puis Danielle, elle a 63 ans. Eh bien, elle préfère Facebook à Instagram. Mais pour l'heure, revenons juste sur les âges. On vient de poster d'ailleurs, et on est en train de poster les photos qu'on a faites il y a quelques instants, lors d'une petite coupure musicale sur RTL. On a fait des photos avec ces fameux filtres Snapchat dont vous nous parliez. Mais nous sommes des bombes, Hugo Drujon.
Merci la technologie.
Mais vous auriez pu me le dire avant. J'ai l'impression d'avoir 20 ans, c'est magnifique ça. Voilà, c'est ça. Et alors donc, à propos des filtres Snapchat, on parlait il y a un instant des âges et de la découverte en fait des réseaux sociaux selon les âges.
Oui, on disait les seniors qui arrivent en bande sur les réseaux sociaux.
Y a aussi quand ils arrivent sur les réseaux sociaux.
C'est ça, c'est exactement ça. Mais il y a aussi cette dimension, on voit plein de vidéos et moi je l'ai fait l'expérience dans ma vie perso, quand on fait découvrir ces filtres Snapchat
aux plus anciens,
à nos grands-parents, il se passe des moments de rire qui sont quand même géniaux et ça fait des souvenirs qui sont quand même canons parce que c'est quelque chose qui pour eux n'est pas du tout naturel, n'a jamais existé, qui ne connaissent pas, et quand on arrive à avoir des filtres qui déforment, on échange les visages, moi je me retrouve avec la tête de ma grand-mère et l'inverse. Enfin, il y a des moments qui sont quand même géniaux et il faut juste faire attention à ce qu'on partage et à comment on le fait, quoi.
Et ouais, c'est une façon de se fabriquer des souvenirs aussi.
Oui, et puis je trouve que c'est toujours bien lorsqu'on peut jouer des images, se jouer des images comme elles se jouent de nous, mais aussi jouer avec nos images. Et c'est là où je trouve que le second degré est totalement essentiel. Et en même temps, la grande majorité, tout de même, c'est quand même le like. Like, c'est pas simplement le fait d'aimer, c'est être comme. Et on sait que le phénomène du même, c'est-à-dire finalement, on se retrouve à parfois avoir l'impression qu'on est tous pareils. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça super quand on peut jouer avec les images.
Voilà, et moi je pense à Charlotte Lebon, que tout le monde connaît, qui est une jeune femme magnifique, Charlotte Lebon, qui régulièrement poste sur Instagram des images d'elle où elle a la bouche rouge qui lui dévore le visage et où elle devient tout à coup une sorte de monstre alors que dans
la
réalité...
Elle fait ses stories avec des filtres Snapchat qui déforment tout son visage. C'est super. Ça, ouais, c'est très très drôle en plus les contenus qu'elle fait. Donc,
voilà, moi, exactement. Je suis d'accord. On va accueillir Daniel sur cette antenne. Bonjour Daniel.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous Daniel. Vous m'autorisez à répéter votre âge. Je l'ai déjà dit, je vous ai même pas demandé l'autorisation, pardonnez-moi.
Non, mais c'est pas très grave.
Mais vous avez 63 ans Daniel, vous vivez près d'Angers et vous, vous adorez les réseaux sociaux. Vous postez aussi sur Facebook et sur Instagram ?
Oui, tout à fait. J'utilise beaucoup plus Facebook que Instagram parce que pour moi, en tout cas, Facebook est plus vivant qu'Instagram.
D'accord.
Alors, j'utilise Facebook parce que j'ai une cinquantaine d'amis, hein, un petit peu plus peut-être. Donc ce sont des gens quand même qui sont triés. Je ne vais pas donner mon compte
à tout le monde, quoi.
À n'importe qui et il n'est pas à mon prénom et mon nom de famille. Vous voyez, c'est
vous
quand
avez
même
un pseudo.
Très personnel. Je me protège par rapport à ça.
D'accord. Et vous postez quoi comme
tout,
photo?
Ça me permet de voir ce que font mes enfants qui sont devenus des adultes.
Évidemment.
Sans les déranger à un moment. Où je vais les appeler pour prendre des nouvelles et puis ben, le téléphone, ça tombe bien, ça tombe mal, ça les dérange. Tandis que là, c'est eux qui mettent des choses, je les vois, ils me font partager ces moments-là et vice-versa.
Et qu'est-ce que vous postez comme photo, Daniel, sur votre vie à vous, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, notre vie sur les réseaux?
Sur ma vie, parce que je n'ai pas envie de me mettre en scène, hein, ce n'est pas mon truc à moi. Je poste juste des choses assez rigolotes sur mes deux chats, par exemple, un ragdoll et un persan chinchilla.
Ouais.
Donc, ils sont dans des postures que je trouve drôles, intéressantes. Et puis, parce qu'ils sont deux beaux chats. Et aussi, j'ai changé de vie professionnelle. Je suis devenue, un peu sur le tard d'ailleurs, assistante maternelle. Et bien sûr, en protégeant l'identité des enfants, c'est-à-dire que je griffonne leur visage via un filtre, évidemment, hein, donc personne ne peut les reconnaître, ça va de soi. Mais comme ça, mes enfants qui ne vivent pas dans ma ville peuvent voir ce que je fais au travers, par exemple, là c'était Halloween hier, donc comment j'ai déguisé les enfants, par exemple.
D'accord, ok, donc c'est vraiment du partage d'expérience, Daniel. On va accueillir Geoffrey, je vais vous le présenter tout de suite, il est sur l'antenne d'RTL. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Geoffrey, vous êtes du côté de Bernay, dans l'Eure. Vous avez 27 ans et vous trouvez que c'est super narcissique de poster sur les réseaux. Vous avez une minute pour vous exprimer, Geoffrey.
Super narcissique, oui, quand on en est trop. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un côté où on veut flatter son ego, comme on fait dans la vraie vie. Hein, quand quelqu'un a une belle voiture, il aime la montrer. Il faut admettre cette part de narcissisme parce que, on en a besoin pour fonctionner et parce qu'on compare toujours notre vie à celle des autres. Donc là, le fait que ce soit vraiment virtuel et accessible à un grand nombre, ça va toucher beaucoup plus de monde. Donc il y a un engouement beaucoup plus fort à tout dévoiler, à envoyer plein de photos et à montrer qu'on a une belle vie, quoi, en gros.
Donc c'est vous ne le faites pas, Geoffrey ?
Ah bah si, moi je le fais et j'assume cette part-là. De temps en temps, j'ai besoin d'entendre un compliment ou une remarque sur quelque chose que je poste, et je le poste aussi dans le but de recevoir des compliments ou des remarques.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même et qu'à un moment donné, il faut assumer cette part de narcissisme, ou en tout cas cette envie d'être aimé, quoi.
Exactement.
Très bien.
Et parfois, ça fait du bien, vous savez, parce qu'on a des hauts et des bas dans la vie, comme tout le monde. Et quand on est dans une période basse, ça vous permet de remonter. À l'inverse, quelqu'un qui est dans une période basse et qui va lire qui va voir tout ce que vous postez, le fait que vous voyagez, je sais pas, et qui lui est dans une période basse, ça va pas forcément l'aider, parce qu'il va se dire, les autres ont une meilleure vie que moi.
Donc en fait, il faut être informé, savoir ce qu'on fait. Geoffrey, c'est la fin de l'émission, mais on voulait terminer avec vous. On vous embrasse. Vous l'avez fait en 1 minute 30. Et voilà.
Désolé,
à bientôt, Geoffrey.
Mais
c'est pas grave. Je vous embrasse. Au revoir, Daniel. On vous embrasse aussi. À bientôt, tous les deux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
On n'a pas pu faire le tour, évidemment, de la question. On se retrouvera prochainement pour parler des dérives que l'on peut également trouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Hugo Drujon.
Merci à vous.
À bientôt, Hugo.
À très bientôt.
Merci pour cette découverte des filtres Snapchat où on est trop canon. C'est sur nos réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes responsable des contenus digitaux chez ITV Studio France et je vous embrasse. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Mickaël Stora.
Merci,
à très
Flavie.
Bientôt. Je rappelle vraiment pour ceux qui voudraient poursuivre nos échanges à travers la lecture, votre ouvrage, Hyperconnexion, c'est hyper intéressant, justement. Et c'est c'est aux éditions Larousse. À la prochaine.
Merci
d'avoir accepté
beaucoup
notre invitation. Demain sur RTL, nous apaiserons les esprits tourmentés par les crises d'angoisse et les attaques de panique. Avez-vous déjà vécu cette effroyable sensation de mort imminente? Un torrent de terreur qui envahit votre corps, votre cœur, votre cerveau, qui vient achever vos forces et qui vous laisse complètement KO. Eh bien, pourquoi faisons-nous des attaques de panique? Comment faire cesser cet acharnement de l'angoisse? Une émission bien utile demain, et ce sera à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Du Rire avec Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et à demain.
Vous écoutez RTL.